Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, j'espère que vous allez bien. Anne Hervé au micro. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier vrai épisode de podcast. La dernière fois, c'était une intro, mais quelle intro, les amis. J'étais choquée de l'accueil que vous m'avez réservé. Déjà, j'étais choquée du nombre d'écoutes, de la façon dont vous êtes ruée sur le projet. Franchement, j'étais vraiment choquée. Parce que pour moi, c'est un truc trop cool que je prépare de mon côté. Mais c'est pas forcément un truc qui va me rapporter beaucoup d'argent. C'est pas forcément un truc... sur lequel je suis beaucoup entourée ou quoi, c'est vraiment un truc que j'ai fait un peu solo pour le kiff plus qu'autre chose, et je pensais pas du tout que vous alliez autant vous ruer dessus, donc merci beaucoup. Et j'étais aussi très étonnée de vos retours sur ma voix. J'ai pas compris là. J'ai des gens qui m'ont dit que je les avais apaisés le matin quand ils étaient en crise d'angoisse. J'ai une dame qui m'a dit qu'elle avait réussi à aller au rendez-vous chez le médecin parce qu'elle a écouté mon podcast et que ça l'a calmée. En fait, je me rends compte que je crois que ma destinée, c'est vraiment de vous susurrer à l'oreille. Si ça peut vous aider à aller mieux, je vais le faire sans aucun problème. On va se retrouver pour un épisode intime. Ma vie sentimentale n'est plus un secret pour Internet. Enfin, ma non-vie sentimentale, du coup. J'ai fait une vidéo très détaillée sur ma seule et unique relation, qui s'appelle d'ailleurs « Ma seule et unique relation », où je vous raconte la seule histoire d'amour que j'ai vraiment vécue dans ma vie, qui était tout bonnement catastrophique et qui m'a rendu complètement cassée à ce niveau-là et qui a constitué du coup une grosse partie de ma vie sentimentale plusieurs années. Donc si vous avez envie de vous instruire à propos de cette relation-là, le lien n'est pas en barre d'infos parce qu'on n'est pas sur YouTube, mais en tout cas je vous laisse aller voir ça sur ma chaîne YouTube. Mais aujourd'hui j'avais envie de vous parler de tous les garçons que je n'ai pas aimés. J'avais envie de vous parler de après cette relation-là qui s'est terminée il y a quelques années et qui m'a complètement cassée en 48, pourquoi je suis aujourd'hui, depuis bientôt 2 ans et demi, complètement célibataire. Pourquoi je suis libre comme l'air, je pourrais faire ce que je veux, je pourrais bien me marier, j'ai plus mon ex en tête, j'ai plus rien qui me retient, et pour autant, je suis complètement célibataire. Voilà, ça fait 2 ans que je n'ai pas l'ombre d'une relation de couple ou même d'un flirt qui dure plus d'un mois. Donc on va essayer de retracer mon parcours sentimental pour comprendre. Et j'ai envie de vous parler aussi de comment je m'épanouis aujourd'hui en tant que femme de 24 ans. Mais oh purée, j'ai 25 ans, c'était mon anniversaire la semaine dernière. En tant que femme de 25 ans, célibataire. Comment depuis 2 ans, je me réveille tous les matins, enfin pratiquement tous les matins, sans un homme à mes côtés. Comment je m'épanouis et comment j'arrive à vivre cette indépendance sans mal le vivre et sans culpabiliser, sans vous faire un tuto pour autant. Mais j'ai envie qu'on retrace tout le chemin de ces 2-3 dernières années pour que je vous explique brièvement comment moi, pas du tout brièvement d'ailleurs, comment moi je vis la vie par rapport à l'amour, comment je vis l'amour, comment je ne le vis pas, je veux pas vous donner de leçons. Je veux juste que ceux qui veulent s'en inspirer puissent s'en inspirer et que ceux qui veulent écouter une histoire pathétique puissent écouter une histoire pathétique. Cet épisode, il est à propos de catastrophes amoureuses, de parcours tumultueux et répétitifs, et finalement d'un apaisement avec moi-même. Dans ce podcast, on va parler de tous ces hommes qui m'ont confronté à mon incapacité d'être en couple. Je voulais préciser que j'utilise des termes hétéronormés parce que je suis moi-même hétérosexuelle, mais que bien sûr on est ici pour accepter tout type de sexualité. Commençons par le premier épisode que j'ai sobrement nommé « Construire une maison sur un terrain hanté ». Voilà, c'est un peu une métaphore pour ma première relation, ma relation avec un homme qu'on appellera aujourd'hui Samuel. j'adore, j'avais jamais renommé mes ex, j'adore le faire aujourd'hui. Samuel, donc, qui a été, je vais vous le retracer brièvement pour les gens qui ne me connaissent pas et qui découvrent aujourd'hui. Samuel, qui a été un jeune homme que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans, donc il a 5 ans aujourd'hui. À l'époque, j'avais jamais vécu de relation de couple, j'avais jamais eu trop d'amoureux. J'ai rencontré ce garçon. Notre relation au début a été très, très, très fusionnelle, très passionnelle. On était tout le temps ensemble, on s'adorait, c'était incroyable. On rigolait beaucoup. Il m'apportait tout ce que j'avais envie qu'il m'apporte. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques semaines tout simplement, j'ai découvert un visage de cette personne qui n'était pas celui qui m'avait présenté au début. Samuel est devenu quelqu'un d'assez abusif envers moi. Samuel est devenu quelqu'un de néfaste tout simplement. Et du coup, j'ai construit tous mes réflexes amoureux et tous mes réflexes en relation de couple par rapport à ce que j'avais appris avec lui. C'est quelqu'un qui me soufflait beaucoup le chaud et le froid, comme je l'ai souvent dit. Donc je ne savais jamais sur quel pied danser. J'ai jamais vécu de stabilité avec lui. Ça veut dire que je pouvais... rire avec lui, on se prenait dans les bras, on s'adorait, c'était incroyable. Et une demi-heure après, il y avait un truc qui lui plaisait pas, il me détestait, il fallait que je parte, après il fallait que je revienne, il fallait que je me taise, j'étais pas assez intéressante, après j'étais intéressante, après j'étais pas assez belle, après il voulait parler à d'autres filles, en fait il voulait plus parler à d'autres filles. Et puis en fait voilà, tout ça ne s'est pas arrêté, ça a commencé sans que je l'arrête en fait, j'aurais dû l'arrêter, je l'ai jamais arrêté. Et c'est devenu de pire en pire jusqu'à ce que je finisse par... De voir, par exemple, le réceptionnant chez moi quand je rentrais de boîte à 4h du matin et qui m'attendait de pied ferme, quand il venait toquer la nuit à ma porte sans s'arrêter pour que je lui ouvre. Et puis, il a jamais réussi vraiment à comprendre ce qui me plaisait pas. Moi, je comprenais pas ce qu'il comprenait pas. Lui, il comprenait pas ce que je comprenais pas. Et je pense que j'étais pas assez mature comme je le suis aujourd'hui, pour juste dire stop et dire... Monsieur, vous ne me correspondez pas, on ne se correspond de toute évidence pas. Vous n'avez pas réglé quelques problèmes psychologiques, monsieur. Donc je pense que ça ne sert à rien de s'attarder. J'avais un peu le syndrome de l'infirmière. Cet homme est détruit, cet homme est instable psychologiquement. Je veux qu'il devienne stable psychologiquement. C'est mon homme instable à partir de maintenant. Et j'en ai fait mon affaire personnelle et je me suis complètement habituée à cette histoire de relations toxiques, on peut le dire. Après, le terme pervers narcissique, je l'ai déjà dit, il me plaît pas trop parce que, bien sûr que ça existe, mais j'ai pas envie qu'on se le colle sur le front dès que notre relation ne fonctionne pas. Et moi, je n'ai pas vu de psy par rapport à cette relation, donc je ne peux pas certifier que cette personne était un pervers narcissique. En tout cas, le fait est que on est arrivé très loin. Mon père m'a même à un moment conseillé de porter plainte contre lui. Enfin voilà, c'était devenu vraiment purement néfaste et je pleurais, j'étais tout le temps mal et puis mon estime de moi était complètement réduite à zéro, quoi. J'avais pas d'estime. C'était vraiment une période où j'avais pas d'estime de moi. Bien sûr, je le cachais en faisant des grands discours sur la confiance en soi sur YouTube, mais je pensais tout ce que je disais, mais je le ressentais pas forcément. Je me suis complètement habituée à cette relation toxique, ce qui a fait que je me suis construite un mécanisme d'autodéfense qui est un peu compliqué à expliquer, je vais essayer de me concentrer. Je me suis habituée à me protéger en étant agressive et en étant renfermée et en donnant très peu d'amour à l'autre. En fait, je me disais, si je veux le garder, si je veux continuer à le fréquenter, pas à le garder parce que j'avais pas besoin de le garder, si je veux continuer à le fréquenter sans que ce soit trop néfaste, parce qu'on est arrivé à un stade où j'en parlais même plus à mes amis, je faisais semblant de pas le voir et j'allais le voir en cachette parce que plus personne pouvait me soutenir sur ce point-là. Je m'étais dit, si je veux continuer à le voir parce que ça, je peux pas m'en empêcher, il faut que je me protège, donc que je me ferme. Je suis agressive envers lui pour avoir une carapace et me protéger. J'avais en plus du coup perdu toute confiance en lui, tout ce qu'il me disait, j'y croyais absolument pas parce que je savais jamais en fait sur quel pied danser. Il m'a complètement manipulée, j'ai tout déconstruit ma façon de voir les gens, j'ai tout déconstruit pour pouvoir juste que mon cerveau tolère cette relation-là sans craquer complètement. Donc j'en suis ressortie au final avec une façon de gérer mes relations avec les hommes. Hein. Pas mes relations amicales, mais mes relations avec les hommes. Ça va mieux, mais j'ai été à la sortie de cette relation complètement bancal axe. Cette femme n'a plus aucun repère dans la vie. Parce que du coup, c'est un peu un truc cliché, mais plus aucune confiance en personne et surtout en les hommes. Enfin, surtout plus aucune confiance en les hommes en fait. Je pars du principe que c'est impossible que je puisse croire les paroles d'une personne masculine qui essaye de sortir avec moi, parce que de toute façon il va finir par me la mettre à l'envers, parce que c'est comme ça que j'ai été habituée en fait. J'ai été habituée à ce que on m'amadoue pour que je retourne dans ses bras, et qu'une fois que je sois dans ses bras, qu'il me laisse et puis qu'il revienne m'amadouer et ainsi de suite. Donc pour moi, chaque relation avec un mec et chaque mot gentil est une technique pour m'attendrir et pour ensuite mieux me la mettre à l'envers, ce qui est totalement malsain. Vous allez voir hein, dans les histoires des garçons que je n'ai pas aimé qui vont suivre, on se rend compte que je suis complètement cinglée. Enfin bref, pour finir cette histoire avec Samuel, il s'est passé quelque chose qui a été une catastrophe pour la planète, mais qui a été une bénédiction pour moi-même. c'est le coronavirus, voilà. À l'époque, ce monsieur était loin, à l'autre bout de la planète. On avait encore quelques contacts, mais moi aussi, j'étais partie en Erasmus. Du coup, j'avais un peu coupé les ponts avec lui. Et puis, le Covid, ça a vraiment complètement coupé court. Moi, pendant ces deux mois de confinement, j'ai complètement changé de style de vie. Ma vie a changé. Vous avez peut-être suivi ça, mais j'ai fait beaucoup de sport. J'ai repris mon alimentation en main. J'étais dans une période, en mars 2020, où je vivais pour la fiesta. J'avais pas vraiment d'objectifs ou de passion autre que de passer des moments avec mes amis, ce qui est très très bien, hein, certes, mais j'avais besoin d'autres choses pour m'épanouir et je m'en rendais pas compte. Et ce confinement m'a permis de me retrouver avec, entre guillemets, moi-même et d'être obligée, en fait, de juste me regarder dans les yeux et de me dire « Est-ce que ce que t'es actuellement, ça te plaît ?» La réponse était non, donc j'ai réglé ce problème. En me donnant, entre guillemets, tout cet amour, enfin en me donnant en tout cas tout cet intérêt et ce self-care, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas me laisser marcher dessus par un type aussi quelconque, pardon Samuel, mais je me suis rendu compte que c'était absolument pas possible qu'une femme comme moi, qu'une femme tout court d'ailleurs, une femme qui se respecte et qui s'aime, subisse ce genre de choses. Une personne ne devrait pas se laisser marcher dessus, se laisser rabaisser, se laisser réduire à néant par une autre personne. C'est pas possible, c'est pas compréhensible, c'est pas acceptable. Donc je me suis juste rendu compte que ce nabo ne méritait pas du tout que je me mette dans tous ces états et qu'on était arrivé à un stade pathétique et j'ai tout simplement décidé de tout arrêter. C'est ce qu'on appelle un déclic après tout. Ce déclic m'a mis à peu près, il a mis quand même 3 ans à arriver quoi, donc c'était très très long. On me demande souvent du coup comment se séparer d'un ex toxique, comment passer à autre chose. Vous allez voir, la réponse à tout en ce qui me concerne, c'est le temps. J'ai pas de recette miracle, en tout cas je sais que moi ça m'est vraiment tombé sur le coin de la gueule quand je me suis rendu compte que j'étais importante et que j'avais de la valeur et que ma valeur ne résidait pas dans une autre personne, que je pouvais être intéressante et que je pouvais être heureuse et m'amuser et vivre et me sentir bien sans la présence de cette personne. Donc le temps est le remède à tous les maux, je sais que c'est très facile à dire, beaucoup moins facile à faire, mais en tout cas voilà, avril 2020, Mai 2020, je me concentre sur moi-même, on sort de ce confinement. Samuel is out, c'est fini avec toi Samuel, ne m'écris plus. Je revois quand même Samuel une dernière fois, histoire de... Vous connaissez quoi quand même, il faut se dire au revoir comme il faut. Je savais dans ma tête, de toute façon, je savais à ce moment-là que c'était fini, donc c'était pas grave. Et je continue ma vie avec un sentiment nouveau qui est « t'es fraîche, tu prends soin de toi, t'as de la détermination ». Parce qu'on me l'a beaucoup dit, ça m'a fait beaucoup de bien pendant cette époque. On m'a beaucoup dit « mais comment tu fais pour être aussi déterminée ?» Parce qu'en effet, on était quand même enfermés dans nos cases avec moi, mon père, mon frère. On vivait quand même un truc un peu compliqué et j'arrivais chaque jour à me lever et à aller faire 1 heure de burpees avec Pamela Reif dans mon garage, quoi. Ça m'a fait du bien en fait de me rendre compte que j'avais de la volonté, j'avais de la détermination, j'avais du mental et que j'étais autre que juste la fille qui se fait vicose par un pauvre type, quoi. Donc, je vivais un été tout bonnement radieux, vraiment. Je fais des rencontres parce qu'on sort quand même d'une époque un peu compliquée, donc on sort beaucoup. Moi, je vais dans le sud, je revois des amis, ça me fait du bien. Je vais boire des verres, franchement, je ne vous l'ai jamais caché, je profite de la vie. Et bien sûr, ma technique était déjà rodée depuis un moment. Hein. Je vois des personnes, je discute avec des personnes, mais je n'envisage jamais d'aller au-delà de ça parce que pour moi, c'est forcément tendre le bâton pour se faire battre. Pour moi, envisager quelque chose de sérieux avec un garçon, c'est potentiellement lui donner l'occasion de me faire du mal. Donc, je souffrais déjà assez par mon passé et par ce que j'avais vécu. Je n'avais pas l'envie de potentiellement me remettre dans un bourbier. Donc voilà, je rencontre des gens, mais comme d'habitude, ça reste très casual. Et puis, vient une soirée, une après-midi, je sais plus ce que c'était, enfin bref, où je tombe sur un type qu'au premier abord, je juge très peu intéressant pour moi-même. Et puis en fait, le temps passant, on s'écrit, il est très sympa, il m'apporte de l'attention, beaucoup d'attention, ce que j'avais pas forcément par le biais de Samuel. Et puis je me dis, bah, je me sens bien, peut-être que je suis une autre femme, et peut-être que, je sais pas, peut-être que je vais mieux et que je peux accepter de l'affection. Cette personne habitait dans le sud de la France, donc je redescends dans le sud de la France tout l'été, tout simplement. Et cette personne prend de plus en plus de place dans ma vie. Ça allait très vite, hein. C'était un peu comme dans Secret Story, quand ils disent aux confesses que c'est incroyable ce qu'ils vivent et que tout est décuplé. Tout était vraiment décuplé. Je ne sais pas pourquoi je vivais la vie à 100 000 à l'heure. Vous voulez que je vous donne le petit nom de cette personne? Je l'ai noté parce que sinon on va avoir du mal. Cette personne s'appelle Adrien. Pas vraiment, mais on l'appellera ici Adrien. Et ce chapitre s'appelle « Encore un petit goût de toxique », comme dirait Britney. J'ai fréquenté ce garçon tout l'été. Il est venu me voir chez moi, je suis allée le voir chez lui. On a passé des super bons moments. Lui me demandait sans cesse plus. Moi, je lui avais dit que c'était hors de question que je le monte sur les réseaux parce que pour moi, c'est vous êtes un peu comme mes parents. Vous êtes comme ma famille et c'est absolument interdit que je présente quelqu'un. J'ai jamais présenté personne à mes parents d'ailleurs. Et c'est interdit que je vous présente quelqu'un si déjà je sais que c'est pas sérieux. J'ai pas envie d'être une plateforme de propulsion pour les profils de personnes qui veulent percer sur les réseaux. Je filmais nos plages, je filmais nos moments et je le mettais sur le côté. Enfin voilà, ça lui plaisait pas trop, mais en même temps j'ai envie de te dire, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Tu veux sortir avec une influenceuse qui s'y frotte, s'y pique. Bref, au final, le temps passe, plus les semaines passent, plus je m'attache. Et en fait, je me rends compte d'un drôle de truc, c'est que quand je suis dans le sud, je prends des hôtels ou des apparts, parce que je veux pas lui demander d'aller chez lui. Encore une fois, ça c'est aussi un problème que j'ai, c'est que je ne supporte pas de dormir chez les gens, parce que je ne veux pas déranger, je ne veux pas créer quoi que ce soit qui fasse que je suis dépendante d'une autre personne. Donc, je ne voulais pas être dépendante de lui, donc je dormais dans des hôtels. Et en fait, je me rendais compte que c'était impossible que j'aille chez lui. Il me disait avoir un appart, mais c'était impossible que... Dès que je lui demandais de passer chez lui ou quoi, il n'était pas dispo. Je ne pouvais pas passer chez lui, c'était compliqué. Oui, ok, puis il ne me répondait plus. Et dès que je lui demandais de dormir chez moi, il ne pouvait pas non plus. Il ne pouvait pas. Alors que, je vous passe les détails, mais ce n'est pas du tout le genre de personne qui voulait par exemple se conserver pour le mariage, enfin voilà quoi. Il n'y avait pas de raison intime derrière tout ça, il ne pouvait juste pas passer 2h du matin être avec moi. Bref, au final, cette personne, je vous l'avais raconté, m'a ghosté. Donc du jour au lendemain, on s'est disputé mi-août, il m'a fait sortir de sa voiture et je n'ai plus jamais eu de nouvelles de sa part. C'était la première fois que moi j'étais un peu en mode « Ok, je fais semblant que je m'en fous, mais je crois que je m'en fous pas et je crois que Samuel, c'est vraiment over et je crois que je vais m'autoriser enfin, même si notre histoire elle est un peu étonnante, même si c'est pas une personne à premier abord avec qui je me verrais, je crois que je vais lui laisser sa chance et je crois que on a un avenir. » Et voilà, un beau samedi soir d'été, il me claque la porte au pif et je ne le vois plus jamais, donc ça a été très compliqué pour moi. Et puis pour vous donner un peu le fin mot de l'histoire et vous montrer à quel point je suis un clown, j'ai appris il y a quelques temps qu'en fait, pendant toute cette période-là, il était en train de se remettre avec son ex et qu'il habitait chez son ex, et que du coup c'est pour ça que je ne pouvais pas aller chez lui, parce que ça n'était pas son appartement, c'était l'appartement de son ex, que quand il me conduisait en voiture, c'était la voiture de son ex, que quand il m'envoyait des snaps en me disant qu'il était avec sa cousine, c'était en fait son ex. Voilà, donc j'ai ouvert ma porte à la mauvaise personne, malheureusement, mais ça encore une fois, ça mérite d'être psychanalysé. Je m'en sors de mieux en mieux, parce que je réfléchis beaucoup sur tout ça, mais j'ouvre souvent la porte aux mauvaises personnes. Je me suis rendu compte que pendant toute cette relation, j'avais des comportements hyper malsains. Ok, cette personne... Bon, après, en effet, ok, ce mec avait quand même une autre copine et me cachait toute une double vie. C'est peut-être pour ça aussi que j'avais des doutes. Mais j'étais pas du tout sereine, j'étais pas du tout apaisée. Je faisais quelque chose qui est très grave et qu'à mon grand âge, je n'assume pas du tout, mais je vais vous le dire. J'avais son compteur Snap, c'est honteux, hein, que j'écrivais dans mes notes... Et je le calculais toutes les heures pour voir si ça avait augmenté, parce qu'il ne me répondait pas. Donc je me disais, ok, donc il ne me répond pas, le compteur Snap augmente, ça veut dire qu'il est sur son tel, ça veut dire qu'il m'ignore. Moi, je pense que maintenant, je veux me dire que si j'en arrive là, c'est over, je le tège, c'est fini. Je ne peux pas, en fait, ce n'est pas possible de se laisser aller dans des relations aussi, enfin dans des comportements aussi problématique et aussi malsain. Donc je me suis rendu compte en fait avec cette relation que j'étais pas soignée en fait de mon ancienne relation et que j'étais toujours pas en confiance. Donc je me suis dit, ok ma vieille, respire un grand bol d'air, prends ton temps. J'ai passé du temps avec mes amis, je me suis reposée, j'ai mis de côté les boys pendant un petit moment. Et puis arrivé le mois d'octobre où je me suis dit, est-ce que ce serait pas le moment de rentrer sur la dating scene? C'est quelque chose que j'ai très peu fait dans ma vie. Je suis très avenante et j'ai un contact social assez simple. Ça veut dire que si tu me laisses en soirée ou si tu me laisses une après-midi dans un bureau, je peux très facilement parler avec les gens, rigoler et tout, ça me pose aucun problème. Mais par contre, à partir du moment où je me retrouve face, seule à seule, avec un homme qui sait que je sais et je sais qu'il sait qu'on veut se pécho potentiellement, Je suis très mal à l'aise. Je trouve ce concept de dates extrêmement gênant. Je trouve ça très bizarre qu'on doive tous faire semblant pendant une heure, deux heures, trois heures, un mois, deux mois, un dîner, trois déjeuners, qu'on va peut-être pas se pécho, qu'on va peut-être se pécho, qu'on s'intéresse à l'autre, qu'on se renseigne et tout. Et je trouve ça trop bizarre. Moi, ça me met vraiment très mal à l'aise. Et du coup, je déteste faire ça et je me mets pas du tout dans ce genre de situation. Mais est arrivé ce mois d'octobre où j'ai décidé de faire un mois sans alcool, un an auparavant tout simplement. C'était tout simplement inconcevable pour moi de passer 2 jours sans boire un verre, donc ça veut dire beaucoup. On parle pas d'alcoolisme là, on parle juste du fait que ma vie était tellement tournée autour de la fête et de ma vie sociale que je pouvais pas passer 2 jours sans aller boire une bière avec mes amis quoi. Alors qu'aujourd'hui ça fait bientôt, je pense, 6 mois que je n'ai pas bu de pinte. On m'applaudit, bravo. J'essaie de sauver mon image de pilier de bar. Bref. Mois d'octobre 2020, j'ai été très déçue par Adrien, mais bon, ça va aller. Je prends toujours beaucoup soin de moi, je vais toujours au sport, je me sens toujours aussi bien dans mon corps. Et je me dis, ok, octobre, je bois pas pendant un mois, je travaille, je me concentre sur mon taf, je fais des choses pour moi et potentiellement, je donne l'occasion à des boys de parler avec moi. Attention, c'est hyper prétentieux ma façon de le dire, c'est pas du tout ça que je veux dire. Je me donne l'occasion de rencontrer des garçons dans une atmosphère saine et dans une atmosphère autre que potentiellement des apéros, potentiellement des boîtes de nuit, des trucs comme ça. Voilà, je me disais, parler autour d'un verre, ça peut faire que je vais rencontrer la bonne personne. Arrive ici Roméo, dans ce chapitre que j'ai nommé la phase dating. Roméo, je le connaissais déjà d'avant. J'avais déjà parlé avec lui rapidement, mais voilà, je n'avais jamais pensé plus que ça à quoi que ce soit. Et puis ce Roméo a décidé, ce mois d'octobre 2020, de tout simplement me draguer. Roméo s'est dit, bah écoutez, pourquoi pas essayer de lui mettre le grappin dessus. Et Roméo m'a proposé à plusieurs reprises d'aller boire un verre. J'ai dit non à Roméo à plusieurs reprises. Et puis, voilà, je me suis dit, c'est parti, c'est la phase dating, je vais aller boire un verre avec Roméo. Ça m'a demandé beaucoup d'efforts, je me suis conditionnée, j'ai été très stressée, parce que, bah, comme je vous l'ai dit, moi, c'est pas du tout un truc que je pratique fréquemment. Et j'ai pris mes crics et mes crocs et je suis allée boire un verre de coca du coup, parce que j'étais en mois sans alcool, avec Roméo. Il faut savoir que du coup, j'en attendais beaucoup parce que pour moi, un tel effort mérite une personne un peu incroyable en face, quoi. Et en fait, quelle fut ma déception lorsque j'arrive à ce verre avec Roméo, que je le trouve très beau gosse, c'est même pas la question. Très sympa, très charmant, Roméo est un Roméo, quoi. Mais qu'en fait, pendant 2 heures de verre, je me dis... Ok, vas-y, bah, je suis à l'aise en plus, je me surprends moi-même, je me dis, en fait, c'est pas moi la personne gênante, c'est Roméo qui est chiant, quoi. Enfin, c'est Roméo qui ne parle que de lui, qui essaye de m'étaler par mons et par vos sa vie incroyable, le fait qu'il évolue dans un milieu génial, qu'il a tout vu, tout vécu, et veut me prouver par A plus B que, voilà, c'est un type de ouf, et que il faut que je sorte avec lui, quoi. Sans même me draguer plus que ça. Mais voilà, pendant 2 heures de verre, vraiment, j'écoute Roméo en disant « Ok, ah ouais, purée, bah c'est ouf. » Voilà, voilà tout ce que j'ai pu dire. J'adore écouter les gens, en plus, ça me pose aucun problème. J'adore écouter les histoires de vie des gens, mais j'adore les écouter quand je les sens enrichissantes et quand je sens que la personne en face, ça lui fait du bien d'en parler et tout. Là, je sentais vraiment que c'était un aller sans retour. Je sentais que c'était juste du show-off, que c'était juste une façon pour lui... De s'étaler sans pour autant que, voilà, que je dise oui, non, j'habite à Tourville ou j'adore les kiwis. Il en avait vraiment rien à foutre, quoi. Il était vraiment en one-man show. Donc je me dis quand même que Roméo se rend peut-être compte que bah, ça fait 2 heures que je me fais chier comme un rat mort, quoi. Voilà, je me dis que Roméo va se rendre compte du dos et Roméo ne s'en rend pas compte parce que Roméo me dit tout simplement je veux rester avec mes amis, est-ce que tu veux venir avec moi et tout. Bon, merci Roméo. La réponse est non. 1. Bah, Roméo n'est pas fait pour moi, ça c'est un fait. Après, je trouve que Roméo n'est pas une mauvaise personne, mais en tout cas, le fait est que ça n'était pas une personne pour moi. 2. Certes, tous les hommes ne sont pas comme Roméo, mais est-ce que j'ai envie de perdre mon temps, mes heures précieuses que je pourrais passer avec mes amis, que je pourrais passer à me concentrer sur des trucs qui me passionnent, sur mes projets, j'ai 1000 trucs à faire, est-ce que j'ai envie de passer 2 heures tous les 2 jours à boire des verres avec des mecs qui potentiellement vont rien m'apporter. Je vais juste les entertain, je vais juste être là pour leur tendre le micro et leur dire vas-y exprime-toi. Des mecs qui, où il y aura rien, il va rien se passer. Je trouve que voilà, est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que j'ai envie d'être dans cette recherche perpétuelle? Et troisièmement, bah est-ce que oui, ce Roméo-là existe, mais est-ce que mon Roméo à moi existe vraiment? est-ce que un jour je vais rencontrer une personne qui va vraiment m'intéresser, qui va vraiment me plaire, qui va vraiment être foncièrement sain et s'intéresser à moi également. Est-ce que je vais avoir un jour cette connexion qui fait que j'aurai pas à me forcer, j'aurai pas à être mal à l'aise, j'aurai pas à me dépasser pour aller boire un verre. Est-ce que ça va m'arriver un jour et comment font tous les autres? Voilà, je suis un peu déçue parce que ça me confronte encore au fait que bah c'est compliqué en fait tout ça pour moi, c'est pas un truc qui est naturel. Et en fait, je crois au fond de moi, je sais pas si je suis la seule, c'est sûr que je suis pas la seule, mais j'ai un truc qui fait que je peux pas faire rentrer quelqu'un dans ma vie juste parce que je l'aime bien. Il faut que je sois intimement persuadée que c'est un truc de fou, il faut que j'ai un déclic en moi pour que je puisse aller plus loin avec quelqu'un. Et ça m'arrive pas, ça ne m'arrive jamais. Donc sur cette déception, la phase dating s'arrête net, c'est fini. Voilà, j'ai essayé, puis ça m'a saoulé très rapidement. Les mois qui suivent, il se passe quelques petites histoires très courtes sans vraiment d'importance. Mais voilà, il y a toujours le même schéma en fait, où je rencontre une personne, je passe un très bon moment avec cette personne. La semaine qui suit, je suis hystérique, j'attends chaque seconde que mon téléphone sonne, enfin que j'ai une notif qui m'indique que cette personne m'a envoyé un message. Je rêve de cette personne, j'ai des papillons dans le ventre. Et en fait, la personne n'atteint jamais mes attentes. Et du coup, au bout de une ou deux semaines, je coupe court à tout. Et je me résigne. Je suis vraiment en mode, ok, over. Parce que je veux éviter toute tristesse, toute déception, tout investissement qui potentiellement va me faire de la peine à la fin et ne m'apportera pas du bon. Donc, au final, on n'avance pas. Et au final, je donne jamais l'occasion aux personnes en face de moi de d'essayer quoi que ce soit et d'essayer une relation quoi. Je non, c'est impossible. Mais je vous en parlerai à la fin. Pendant tout ce temps-là, je suis pas du tout en mode oh là là, mais il me manque juste mon prince charmant pour compléter ce tableau. Vraiment, je vis vraiment ma vie en mode c'est génial, j'aime la vie, c'est sympa. Après évidemment, il y a le contexte couvre-feu et tout qui fait que c'est un peu l'adep, on va pas se mentir. Je m'épanouis parce que, encore une fois, je me consacre à moi-même et je me concentre énormément sur moi-même, chose que je n'avais jamais faite auparavant. Donc, je passe beaucoup de temps à réfléchir à ce que je veux faire. En fait, j'ai construit une sorte de cocon autour de moi-même que j'avais pas avant, où en fait, je suis dans mon petit confort, je suis bien avec moi-même. Et donc, ça me conforte encore plus dans mon idée de je vais pas me sortir avec un type juste parce que, vas-y, il est bien sympa 5 minutes. Je ne veux pas, j'ai beaucoup plus de choses à faire que juste ça. Donc voilà, je vis ma vie sereinement. Et puis vient août 2021, donc pratiquement un an après toutes ces histoires, je pars en vacances avec mes amis et je rencontre Armand. Je rencontre Armand en boîte de nuit. Armand qui, en boîte de nuit, m'installe à ma table en fait, avec mes amis. Et ce petit chenapan m'offre un shot. Voilà, moi je le sexualise absolument pas. C'est vraiment, pour moi, Armand est vraiment un petit Playmobil très sympa qui m'offre un shot. On sort discuter, 5 minutes, 10 minutes, on parle de nos taf et tout. Je re-rentre et en fait, je suis très surprise le lendemain matin d'avoir un message de Armand qui me dit « Coucou Anna, c'est moi, je fais pas ça, ça se fait pas trop normalement. » Alors ça, après punchline, pas punchline, on le saura jamais. Ça se fait pas et j'aime pas faire ce genre de choses, mais j'ai trop kiffé les chances qu'on a eues hier. Et j'aimerais bien qu'on discute plus, voilà. Et en fait, je sais pas comment, en deux temps trois mouvements, en trois messages, Armand capte complètement mon attention. Armand arrive à me foutre dans sa poche. Je lui fais un Lydia de 1€ pour lui dire merci pour le shot. Et lui, il me fait un Lydia de 10€ en disant pour m'inviter à boire un verre ce soir. Et moi, je lui fais un Lydia de 15€ en lui disant c'est moi qui t'invite à boire un verre. Et il me refait un Lydia de 20€ en me disant RDV à telle place, tel bar à 21h. Enfin voilà, je le trouve hilarant. Et c'est un peu le truc des gens qui disent j'ai eu un coup de foudre. Bon, j'ai pas eu un coup de foudre, mais j'ai eu une aisance dont j'ai besoin quand je rencontre quelqu'un. Et je me suis sentie hyper bien avec Armand. Donc on parle, on fait que parler, on s'écrit. Je reste quand même une petite fragilose, donc je ne vais pas au rendez-vous qu'il m'avait donné le soir. Je lui dis que je ne suis pas disponible. En même temps, j'étais en vacances avec mes meilleurs amis d'enfance. On se voit une semaine par an. Est-ce que c'était le moment d'aller dater dans des bars? Pas forcément. Puis est-ce que je fais ce genre de choses? Pas forcément non plus. Bref, on s'écrit, on continue de s'écrire. Et le lendemain, Armand me dit « Bon, écoute, est-ce que t'es chaud qu'on marche une demi-heure? Je t'amène à ton point de rendez-vous, parce que j'avais rendez-vous avec des copains après. Je t'amène, on marche et comme ça, on peut se voir un peu. » Je prends mon courage à deux mains. J'avais peut-être fait une pool party l'après-midi qui fait que j'avais un peu de courage liquide. Et je lui dis, ok, vas-y, on fait ça. Je prends un Uber toute seule. Je ne fais jamais ça. Je prends un Uber toute seule, je rejoins Armand. On marche un peu. Encore une fois, comme d'habitude, je me sous-estime parce que j'étais beaucoup plus à l'aise qu'Armand, qui fait tomber son portefeuille, qui trébuche, qui est tout gêné et tout. Mais je le trouve beau gosse et je sais pas, j'aime bien. J'aime bien ce qui se passe. On se voit vraiment une demi-heure. Je finis par, évidemment, sortir dans sa boîte de nuit le soir même. On est un peu tactile et tout, mais bref. Nos échanges s'arrêtent là. Il n'y a rien de plus entre nous. Je rentre chez moi. Le lendemain est le jour où je quitte ma ville de vacances et où je retourne à Lyon. On pourrait se dire, bon, bah voilà, sachant qu'on s'est littéralement vu une demi-heure, trois quarts d'heure dans cette vie, est-ce qu'on va continuer à se parler? Non. Et on continue à se parler, étonnamment. Et tout le trajet de retour à Lyon qui dure 8 heures, je lui parle. Et toute la semaine qui suit, on s'appelle, on s'envoie des photos, on discute et tout. Et je me dis, mais est-ce que je suis pas en train de kiffer Armand? Enfin, je me dis, en tout cas, je kiffe comment Armand me fait sentir. Le temps passe et Armand me dit, vraiment au bout de vraiment 10 jours, quoi, très peu de temps après, j'ai envie de venir te voir à Lyon. Je vais prendre des billets de train et je viens chez toi dans une semaine. Là, voilà, quelque chose est trigger en moi. Je suis un peu en mode, ok, je kiffe Armand, enfin, je kiffe parler avec lui. Mais est-ce que je me vois passer 4 jours seule avec lui? Il veut dormir chez moi et tout, quoi. Est-ce que je me vois le gérer 4 jours, sachant que je l'ai vu en vrai, dans la vraie vie, une heure? Donc, si ça se trouve, on est à l'aise par message. On s'était appelé, voilà, on s'appelait, mais on s'appelait pas très longtemps et on était toujours un peu gênés et tout. Est-ce que je vais être à l'aise 4 jours avec lui? Imagine, au bout d'une demi-heure, je me rends compte que vas-y, il y a un truc qui me plaît pas. Parce qu'en plus, moi, je suis très vite. J'ai très vite le hic, comme ils disent les Amerlocs. Donc, je vois très vite un truc en toi qui me gêne. Donc, je me dis, imagine, au bout d'une heure, il y a un truc qui me plaît pas. Le type habite quand même à 6 heures de train, 4 heures, 6 heures. Je peux pas juste lui dire, bon, vas-y, tu prends ta voiture et tu rentres chez toi, quoi. Donc, je commence à être un peu froide. Je vous en avais déjà parlé dans le précédent épisode, je fais la technique de l'autruche, qui est que quand un problème est trop imposant et que je ne sais pas comment le gérer, je ne le gère pas. Donc, je commence à ne plus répondre à Armand. Attention, j'ai honte de ce comportement, d'accord? Et je vous expliquerai après que j'en ai tiré des conclusions. Je commence à ne plus répondre à Armand. Armand qui me dit « t'es froide, qu'est-ce que t'as, on peut s'appeler et tout », qui m'appelle, je lui dis « je sais pas, je me sens pas très bien et tout machin ». Il commence à voir que je suis chelou, mais il continue à forcer. Je finis par quand même avoir un cœur et dire à Armand, écoute Armand, moi j'ai envie de te voir, je vois qu'il y a un potentiel entre nous, mais je suis trop mal à l'aise avec le fait que tu dormes chez moi et que du coup tu sois dépendant de moi et que si ça se passe mal, du coup je sois bloqué avec toi quoi en somme. Donc est-ce que ça pourrait être envisageable pour toi de prendre un hôtel ou un Airbnb, comme ça bah au pire des cas... S'il y a un problème, on n'est pas bloqué l'un sur l'autre, quoi. Puis de toute façon, enfin, excusez-moi de vous le dire, mais je trouve ça quand même, en tant que femme, compréhensible que je ne veuille pas qu'un homme que j'ai vu 2 heures dans ma vie dorme dans mon lit, soit collé. Je sais pas qui est cet homme. Je sais pas c'est quoi son passé. On voit assez d'horreur dans ce monde. Si je peux me protéger en évitant d'inviter un type dans mon lit pendant 4 jours sans savoir ce qu'il peut me faire, s'il peut me fermer la clé et jeter la clé, enfin bref, je ne suis pas à l'aise avec ça. Donc, pour sauver notre relation et ne pas le ghoster complètement, je préfère lui dire. Et Armand, là, me dit, ok, je comprends ce que tu me dis. Donc là, moi, je suis, waouh, purée, il m'a écouté, il m'a comprise. Et en fait, il finit par me dire, mais Anna, je vais pas mettre 400 € dans un Airbnb, alors que t'as un appartement, je serai à Lyon à côté de toi, mais tu seras pas avec moi, je vais t'attendre, c'est bizarre, non. Donc, t'inquiète pas, je viens chez toi, mais au pire, je dormirai sur le canapé. Ok, cet homme n'a pas du tout compris mon propos, qui était « je ne veux pas me retrouver bloqué avec toi dans un appartement de 50 mètres carrés, donc que tu sois sur le canapé, sur le carrelage, dans le sol de la cuisine, c'est la même chose ». Je lui explique, il comprend pas, donc moi ça commence de plus en plus à me braquer, et puis Armand finit par faire une erreur fatale, il me dit « j'ai pris mes billets de train, je viens ». Ah là, ça passe pas, là ça passe pas du tout, là c'est fini, pour moi c'est le blocage immédiat, je me ferme. Je ne réponds plus à rien. Le soir même, vraiment, j'en suis à en avoir mal au ventre, à avoir chaud, froid, mal à la tête. Je me sens physiquement étouffée, quoi. Vraiment. Je sens qu'on marche dans mon intimité. Et ce pauvre homme, qui est en plus, je le sais, très gentil. Et c'est un des seuls de toutes ces histoires qui a vraiment un très très bon fond. Il n'a pas respecté la distance que j'avais besoin qu'il respecte. Et il m'a complètement braquée. Donc j'arrête de lui répondre. Je laisse passer quelques jours. Non, je sais plus combien de temps je laisse passer. Bref, il finit par me dire, ok, j'ai compris, il y a un truc qui va pas. Dis-moi juste si j'annule mes billets de train en bas, parce que là, je suis censée venir dans 4 jours, quoi. Donc, mes amis me disent, Anna, par contre, tu détesterais qu'on te fasse ça, donc ne le fais pas à lui. Et en effet, je me rappelle de ce qui s'est passé avec Adrien une année auparavant. Je lui dis donc, écoute, vraiment, je suis désolée, mais ça va pas le faire. J'ai beaucoup de mal, je t'ai expliqué que j'avais un passé compliqué avec les relations amoureuses. J'ai beaucoup de mal, donc c'est pas possible. Là, tu prends trop de place, j'étouffe. Peut-être qu'on se retrouvera si on doit se retrouver, mais en tout cas, là, c'est pas le moment. Armand m'a dit « Ok », m'a bloqué de partout. Et vu que c'est un petit sucre, m'a débloqué de partout, m'a dit « Je ne veux pas te bloquer de partout, mais ça me fait de la peine. » Et voilà, c'est ainsi que ça s'est fini. 3 mois plus tard, il avait une petite amie. J'en ai donc déduit que Armand avait aussi peut-être envie de se mettre en couple. Vraiment beaucoup. Et qu'il aurait peut-être un peu tenté la chose avec n'importe qui. Mais bref, le fait est que j'ai coupé court à cette relation qui était prometteuse. Et je me suis dit, en fait, je suis pas capable encore. Je suis pas capable. C'est le chapitre que j'ai voulu appeler le blocage du cœur. Malgré tout le temps que je me suis accordé à moi-même, j'avais pas la capacité de laisser entrer quelqu'un dans ma vie comme ça. Et que si quelqu'un devait prendre de la place dans mon quotidien, il fallait que ça se fasse excessivement progressivement. Et il fallait que je me sente excessivement à l'aise avec cette personne-là. Je me suis vraiment construit une routine saine, une routine seule qui me correspond. Je me suis construit un quotidien qui fait que, en fait, je peux pas laisser entrer n'importe qui. J'ai pas besoin de quelqu'un, en fait, foncièrement, sans vouloir me la raconter. J'ai vécu quelques histoires, encore une fois, quelques flirts, et à chaque fois, c'est impossible, en fait. C'est impossible parce que je donne pas l'opportunité à ces personnes d'aller plus loin. C'est pas possible, j'ai pas l'envie. Et si tu me fais pas vibrato comme un vibratax, si tu déclenches pas en moi un peu de curiosité, enfin énormément de curiosité même, je vais pas y arriver parce que j'ai tellement peur de me faire avoir, j'ai tellement peur d'accorder ma confiance à une personne qui la mérite pas et qui va me faire souffrir d'une façon ou d'une autre, qu'il faut que tu passes par 120 000 phases et par un tas de tests involontaires avant que je t'accepte. Et du coup, franchement, il suffit qu'il y ait un truc qui me plaise pas trop pour que voilà, ça n'aille pas plus loin et mon cerveau ne le considère même pas, quoi. Est-ce que c'est grave, tout ça? Est-ce que c'est catastrophique? Non. Je me sens de plus en plus à l'aise avec moi-même. Je me sens de plus en plus à l'aise dans ma vie, ce qui fait que je sais et je sens que je pourrais accueillir quelqu'un dans ma vie. On dirait que je parle vraiment d'adopter un petit chiot, mais non. Je sens que je pourrais sortir avec quelqu'un. Mais j'ai pas forcément le... En fait, j'ai pas... le temps, j'ai l'impression que j'ai pas le temps. J'ai l'impression que mon quotidien est déjà tellement rempli qu'il me manque juste un peu d'affection. Mais en fait, que juste, je pourrais juste recevoir cette affection de 23h à 9h du matin, aka les moments où je suis dans mon lit et que je dors. Parce que sinon, mon cerveau est déjà pris tout le temps. Je vois pas comment je peux. Je ne vois pas. Mais en tout cas, je pense que ça va m'arriver un jour. Je suis sereine sur le fait que je sais qu'au fond de moi, je suis une bonne personne. Et que même si je suis un peu tapée du ciboulot et que j'ai des travers, que j'ai des traits toxiques et que je les connais et que j'essaie de... Quand je rencontre quelqu'un et que j'essaie de m'y intéresser, ce qui arrive depuis un petit moment là, enfin ce qui récemment m'est arrivé, j'essaie de lui dire et de lui dire voilà, j'ai un problème. Il faut le savoir, j'ai un problème, donc il faut composer avec et il faut qu'on travaille main dans la main pour passer outre ce problème. J'en ai marre, je veux plus être dans le truc de... un mec, il faut que je le fasse galérer pendant 3 heures sans répondre à ses messages, il faut que je lui fasse croire que j'en ai rien à foutre et tout. Je ne veux pas me rendre sur un plateau d'argent parce que de toute façon, j'ai pas le temps pour être disponible à 24-24 pour une personne, mais je ne veux plus jouer à des jeux toxiques parce que je pense que c'est en jouant à des jeux comme ça, de fuis-moi, je te fuis, qu'on se retrouve dans des relations malsaines et j'en ai un peu marre. Ce qu'a dit Shai, la rappeuse, si tu viens dans ma vie, c'est du plus. J'ai tout en fait. Si tu viens, c'est vraiment juste parce que t'es sympa, t'es beau gosse, t'es drôle, t'es intelligent, t'es intéressant et tu m'apportes quelque chose en plus. Parce que je dépendrai pas de toi parce que je n'ai pas besoin de toi. Donc, je suis vraiment dans ce mode où je suis pas du tout à la constante recherche d'un petit ami parce que je me suis construit une vie où en fait je ne suis dépendante que de moi-même. Et du coup, bah, ça me manque pas plus que ça. Ce qui nous amène quand même au sujet comment on est heureuse seule. Pour moi, ça s'apprend comme ça se désapprend. J'ai l'impression que, encore une fois, le temps fait tout. J'ai l'impression que quand je vis quelques mois de... Enfin, après, ça fait très 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 longtemps que ça m'est pas arrivé. Ça m'est pas arrivé depuis Adrien. Quand j'ai vécu ces quelques semaines où tu textes régulièrement la personne, où t'as des appels le matin, le soir, où tu te vois, tu passes des bons moments, tu te fais des bisous, t'es trop mimi et tout, tu te réhabitues vite, très très vite, à ce confort. Et du coup, quand ça s'arrête, je suis vite en mode, mais la vie n'a plus aucun sens. Et en fait, là, vu que ça fait 2 ans, j'ai grave eu le temps de m'habituer à ça et de trouver mon bonheur et mon confort et ma joie de vivre ailleurs que dans les bras d'une autre personne. C'est-à-dire dans ma façon de me rendre fière. Par exemple, quand je me lève le dimanche matin, que j'ai bien dormi et que je vais marcher 3 km en écoutant un podcast, que je rentre chez moi et que je me fais un brunch, bah, j'ai un accomplissement, les gars, je suis fière de moi. Quand je suis un peu énervée, que je me dis, plutôt que de crier, de mal parler à tout le monde, va à la salle courir 1 heure et reviens et que je me sens mieux, j'ai un accomplissement de malade. Quand je passe 20 heures à monter une vidéo et que j'en suis trop fière et que j'ai des trop bons retours, j'ai un accomplissement qui me rend heureuse. Quand je roule en trottinette dans Lyon avec de la musique et que c'est le coucher de soleil, je me sens heureuse. Quand je bois un verre avec mes amis, que je les regarde et que je me dis mais c'est trop génial la vie, je suis heureuse. Voilà, c'est plein de trucs comme ça qui font que j'ai trouvé mon bonheur dans le quotidien et dans mon quotidien seule et indépendante. Et que du coup, j'ai pas besoin d'avoir quelqu'un. Mais je comprends que quand on est habitué à avoir quelqu'un dans sa vie, c'est très compliqué de le vivre seul. En fait, pour moi, tout le monde, toute femme et tout homme, devrait passer par une phase où, pendant quelques mois, il est confronté à être seul avec lui-même pour savoir qu'il peut vivre seul avec lui-même. Parce que pour moi, le fait d'être dépendant de quelqu'un et de savoir qu'on a une dépendance envers quelque chose ou quelqu'un, de savoir que tu peux pas te sentir bien, tu peux pas te sentir... En fait, tu peux pas vivre sans la présence d'un homme ou d'une femme dans ta vie. Ça te pousse à forcément, des fois, potentiellement, accepter des trucs que t'accepterais pas forcément. Tolérer des personnes que tu voudrais pas forcément tolérer. Je me dis, notre génération, on a de la chance de se dire et de s'entendre dire, oui, vous les femmes, vous pouvez tout faire toute seule. Vous êtes des personnes à part entière et vous êtes aussi indépendantes que les hommes. Et du coup, c'est un truc qui est très très important pour moi. Et je trouve que le sentiment d'indépendance, c'est le sentiment de je me paye ma nourriture, je me paye mon loyer, je me paye mes chaussures, je me paye mes verres en boîte. J'ai pas besoin d'un monsieur qui m'aide. Je sais réserver un vol toute seule. Je sais appeler l'assurance toute seule. Je le fais pas parce que j'ai la flemme, mais je sais le faire. Bah, c'est hyper satisfaisant. Et c'est pour ça que je pense que se confronter à soi-même pendant un moment, c'est toujours très intéressant et c'est toujours bien. Je peux pas vous donner un mode d'emploi, mais je trouve que des petits tips qui sont cool, c'est par exemple, c'est la fin de la semaine, vous êtes solo, vous êtes un peu crevé, votre vous habituel vous dirait vas-y, sors en boîte avec tes copains, mais vous êtes fatigué, vous sentez que c'est pas forcément la meilleure solution. En même temps, vu que vous êtes célib, vous êtes un peu en mode j'ai un peu envie de faire des rencontres et tout, mais bon, est-ce que tu sais que quand tu vas être à 3 grammes en boîte, tu vas rencontrer l'homme de ta vie, je sais pas, bref. Se dire bah non. Je vais plutôt aller m'acheter une mini bouteille de champagne au Monoprix, regarder un film que j'adore, faire un masque, lire un livre qui me détend, écouter un podcast, mettre de la musique, me complaire, me faire une liste des choses qui m'ont plu cette semaine, me faire une liste de 5 compliments que j'aimerais me donner. Voilà, se faire du bien et s'offrir à soi-même ce qu'on aimerait que les autres nous offrent. Et puis, surtout, j'ai envie de conseiller aussi de trouver l'amour ailleurs que dans des relations amoureuses, et de trouver de l'affection ailleurs que dans des relations amoureuses, dans sa famille, dans ses amis, dans ses animaux de compagnie, l'affection elle est partout. Voilà, c'est juste très important pour moi de conclure sur le fait que, certes, voilà, la vie et la société nous poussent à rencontrer quelqu'un, nous marier, faire plein d'enfants et s'aimer toute la vie, ou divorcer et recommencer, mais c'est aussi très 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 important de ne pas faire des concessions pour garder les gens et de ne pas, comment formuler ça, de ne pas faire l'erreur que j'ai faite moi pendant trop longtemps dans ma première relation avec Samuel, qui m'a rendue, comme j'ai pu l'être et ça va mieux, mais qui m'a rendue malade à un moment, c'est de dépasser toutes mes limites et de ne pas m'écouter, de dire ta gueule au monde intérieur qui me hurlait que c'était la catastrophe, juste pour avoir une personne dans ma vie. Et moi, ça, je veux vraiment, vraiment que personne le fasse dans l'assemblée. Et je veux vraiment que votre vie amoureuse, elle existe parce que la personne en face de vous, vous la respectez, elle vous inspire. Et pas parce que vous voulez avoir quelqu'un à votre bras et que du coup, vous vous contentez du premier venu. C'est vraiment quelque chose que je trouve trop triste. Et je trouve que du coup, ça passe par le fait de s'aimer soi-même et de se rendre compte qu'on est une personne de ouf et de se rendre compte qu'on est une personne et qu'on mérite du respect et que le bonheur, il passe pas par le fait d'avoir quelqu'un à son bras. Moi, quand je compare mon moi d'il y a 4 ans, quand je sortais avec ce type et mon moi d'aujourd'hui, qui suis célibataire comme un rat crevé depuis 2 ans, je n'échangerai ma place pour rien au monde avec cette ancienne Anna. Vraiment, laissez-moi où je suis actuellement. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, pour conclure cet épisode, ma psychanalyse, mon autopsychanalyse, c'est que j'ai vraiment jamais vécu de relation d'amoureux qui soit saine. J'ai jamais vécu de relation d'amour où on donne et on reçoit sainement. J'ai jamais appris à donner, j'ai jamais appris à recevoir sainement en couple. Et du coup, j'ai reproduit beaucoup des schémas qui sont pas forcément positifs. Donc c'était important pour moi, finalement, d'apprendre à m'aimer moi-même pour avoir envie d'être respectueuse et gentille envers moi-même et du coup, envers quelqu'un d'autre. Maintenant, c'est le cas davantage. Mais j'ai quand même besoin d'être patiente, d'être prudente et de laisser la vie faire les choses et de m'écouter et de ne jamais me jeter dans les bras de quelqu'un parce qu'il me dit une fois que je suis belle et de ne jamais céder à l'attrait de l'attention plus que tout. Merci à tous ces garçons que je n'ai pas aimés de m'avoir appris tout ça et d'avoir fait partie de mon cheminement. Parce que c'est vous les boys qui m'avez fait cogiter à ce point-là. Et c'est grâce à vous les boys que cet épisode existe aujourd'hui et que je me suis assise sur mon plaid, sur le sol de mon dressing, pour me psychanalyser et pour réfléchir à tout ça. J'espère que vous avez apprécié ce moment de partage et j'espère que vous avez apprécié réfléchir à tout ça avec moi. J'espère que je vous aurai apporté quelque chose, un tant soit peu. Franchement, je ne prétends pas avoir quelconque remède miracle. Je ne prétends pas avoir écrit une thèse, je ne prétends rien du tout. C'est encore une fois juste l'histoire d'une dame de 25 ans qui a envie de raconter sa vie et qui adore la raconter à des gens qui l'écoutent avec autant de bienveillance que vous. Donc merci beaucoup pour votre attention. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Si vous m'écoutez partout ailleurs, mettez-moi des petites étoiles, ça me fera plaisir. Et encore une fois, venez m'écrire sur Instagram @tanervr pour me donner votre ressenti. Je commencerai dès le prochain épisode ce truc que j'avais envie de mettre en place, de mettre en avant un podcasteur qui avait besoin de visibilité. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais promis, ça arrive très bientôt. On se retrouve à Zap, je pense, dans 2 semaines pour le prochain épisode. C'était Anna au micro de Contre-soirée. À très bientôt. Bisous, bisous.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping, and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.